Couper celui-là. On a entamé une réflexion sur que donner à Dieu et que donner financièrement. Alors c'est un sujet un petit peu, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est un sujet qu'on n'aime pas trop, mais c'est un sujet que la Bible parle. Et donc, on avait lu à la fin du message où on avait parlé la semaine dernière. La semaine dernière, le message s'était tourné plutôt donner, mais comment ? Vous vous rappelez ça ? Donner comment ? Avec un cœur joyeux, sans contrainte, volontairement. Et on avait regardé comment Dieu nous amenait, par sa grâce, à pouvoir lui rendre ce que lui nous donnait. Et dans l'évangile de Jean, Jésus parle à ceux qui, quelque part, sortent de l'Ancien Testament, des lois, ceux qui regardent les Juifs qui ont des lois pour donner, et il leur dit cette phrase, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, si nos actions à nous, si nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous qui sommes sous la grâce, on va en reparler aujourd'hui, nous qui sommes libres, nous donnons moins, nous faisons moins que ceux qui ont la loi, alors, à quoi ça sert d'être né de nouveau ? À quoi sert la grâce ? Si la grâce restreint, si la grâce enlève. Donc le verset de la semaine dernière, le dernier verset, celui auquel il fallait rester un peu accroché, c'est « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'entrerez jamais. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas, frères et sœurs, on va mettre tout de suite un jalon. C'est pas le fait de donner qui va faire de moi un chrétien. C'est pas le fait de mettre dans le hall, de mettre dans les réceptacles. C'est pas ces choses-là qui vont m'envoyer au ciel. Soyons clairs. Ce qu'on fait là ce matin, c'est pas je veux pas vous envoyer au ciel par ce que vous donnez ou ce que vous donnez pas. La Bible dit c'est parce que nous sommes croyants que nous donnons. Ce qui nous envoie au ciel, c'est le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection. Ça nous y envoie. Maintenant, la manifestation de ça dans notre vie, c'est le fait que je peux donner. Et de savoir combien je dois donner, c'est ce matin on va en parler, c'est ça qui est important. Si j'ai appris comment, maintenant je dois essayer de savoir combien. Et là vous dites, il va un peu fort le pasteur. On y va. Question. Le chrétien sous la grâce, nous, les vignotiens, et les plétaïens, et les évriens, et les, je sais pas trop, comment on appelle les gens de Montgeron, voilà. A-t-il le droit de se saisir de la grâce comme prétexte pour donner moins qu'un juif sous la loi ? C'est une bonne question pour commencer le culte, hein ? On aurait dû se la poser avant de passer l'offrande. Est-ce qu'un chrétien sous la grâce a le droit de se saisir de la grâce en disant « Je suis sous la grâce » ? Un prétexte pour dire « Maintenant, j'ai plus besoin de donner. » Puisque je suis plus sous la loi. Alors, il y avait un roi. Vous savez qu'à l'époque des rois, il y a eu des bons rois et des mauvais rois. Il y avait les rois du nord et il y avait les rois du sud. Et sous le roi Ézéchias, voilà ce qui a été dit, ça se trouve dans le deuxième livre des chroniques. Alors ceux qui viennent vendredi, vous avez le deuxième livre des chroniques à lire, donc vous avez déjà un verset ce matin. Au verset 31 et verset 4, il est dit, il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part des prêtres et des lévites, afin qu'ils s'attachent à la loi du Seigneur. L'intention de Dieu, en collectant l'argent, et en 2013, j'avais fait une petite série qui s'appelait Dîmes, les lois ou dîmes ou quelque chose comme ça. et où j'avais montré toute l'économie de Dieu, comment Dieu avait pris soin de son peuple. Or, pour que les prêtres et les lévites fassent leur travail, le peuple devait, lui, collecter. Va un peu plus loin. Doivent collecter l'argent pour que ces gens fassent leur travail. Et il dit au verset 5, « Lorsque cette parole se fut répandue, les Israélites donnèrent en abondance les prémices du blé, du vin, de l'huile, du miel, de toutes les récoltes de la campagne. Ils apportèrent aussi en quantité la dîme de tout. » C'est quoi les prémices ? C'est un mot qui vous embarrasse un peu, prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits. C'est-à-dire que quand il y a la récolte, les bons fruits, la bonne part, elle était réservée à Dieu. Dieu en premier. On servait Dieu en premier, par la première récolte. Celle qui est bonne. Et là, non seulement ils donnent en abondance de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont collecté, mais regardez bien, en plus, ils amènent la dîme, 10% de tout ce qu'ils ont. Le cheptel, le bétail, la nourriture. Ce qui est intéressant, c'est que quand la parole de Dieu, quand cette flamme brille en nous, il y a une chose qui se manifeste, ou qui devrait se manifester. C'est qu'alors, je suis libre de donner. Libre d'aimer, libre d'aider. Parce que Dieu a mis sur mon cœur, non plus « et moi, et moi, et moi », mais « et les autres, et les autres, et les autres ». Vous avez déjà vu ça comme ça ? De dire voilà, dès que je rassemble tout ce que j'ai, de dire au Seigneur, « Seigneur, je veux te donner. Je veux te donner le meilleur. Le meilleur de ce que tu m'as donné. » Et quand on reçoit notre salaire en début de mois ou en fin de mois, de dire au Seigneur, avant que je fasse la liste des choses que j'ai besoin, j'aimerais te donner la part à toi qui te revient. Et c'est ça que les Israélites, c'est ça que le roi Ézéchias essayait d'envoyer le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple n'était pas dans l'abondance, mes amis. Le peuple, à l'époque des rois, il y avait... Le peuple a eu une royauté unie sous un roi, Salomon. Et puis après, il a eu plusieurs rois divisés, le nord, le sud. Et puis ils ont été éparpillés, puis ils sont partis en captivité. Et puis ils sont revenus pour rebâtir le temple. C'est tout ça l'époque des rois, les chroniques, les rois, les chroniques, Samuel. Et quelque part, ils ne sont pas dans une situation très stable, et ils doivent survivre, et pour survivre, ils doivent faire leur jardin, ils doivent élever le bétail. Et le roi leur dit, collectez, donnez déjà à Dieu ce qui lui revient. Ce n'est pas dans un contexte facile. Nous ne sommes pas dans un contexte facile, mais eux non plus. Et la générosité, on a vu la semaine dernière avec les Philippiens. Vous vous rappelez qu'ils avaient donné bien au-delà de leur pauvreté, avaient donné des richesses de leur pauvreté. Ce qui est intéressant, j'avais fait le point il y a quelques années, j'ai vérifié, c'est que la dîme n'est pas venue par la loi. La dîme, l'argent qu'on doit donner au Seigneur, le montant, n'est pas venu d'un texte de loi. Ça a du sens, hein ? Il est venu avant. Abraham, il existait avant la loi. Abraham, il existait avant la loi. Genèse 12, il n'y avait pas la loi encore. Et regardez bien, Abraham était un croyant. Il avait foi en l'existence d'un Dieu unique. Il reçut de Dieu l'appel de se rendre en Israël. Dieu lui fit la promesse que cette terre appartiendrait à ses descendants, qui formerait un peuple et apporterait une grande bénédiction au monde. Avance, s'il te plaît. Alors qu'il était dans cette terre promise, après avoir quitté son pays de Mésopotamie, c'est l'Irak d'aujourd'hui, hein. Abraham, c'était un Irakien. Il rencontra dans la vallée dite du roi Melchisédek. Vous savez qu'on le trouve dans le Nouveau Testament aussi, Melchisédek. Jésus, il est selon l'ordre de Melchisédek. un homme de Dieu qui était à la fois roi et sacrificateur du Très-Haut. Au cours de cette rencontre, Melchisédek bénit Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous avez vu le texte de tout à l'heure ? Le roi Ézéchias a invité le peuple à donner les meilleurs éléments de ce qu'ils avaient à Dieu. Et le peuple a offert généreusement la dîme de tout. Abraham, avant, avait pris cette initiative. Avance un peu, parce que je crois qu'il y a la référence. Non ? Voilà. Genèse 14, 1. La chose extraordinaire, c'est que Dieu a suscité dans le cœur d'Abraham cet homme qui l'a changé. Cet homme à qui il a demandé de quitter son pays, de quitter sa famille, pour faire un long périple avec ses parents, pour aller jusqu'en Canaan. On connaît son histoire d'Abraham, on sait que ça n'a pas été facile. On sait qu'en route, il a perdu ses parents, il les a enterrés. Et on sait que quand il arrive en Canaan, il y avait des problèmes, alors il a été jusqu'en Égypte. Et puis il est revenu, riche. Dieu l'a gardé malgré qu'il avait menti. Et ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est que quand je me mets devant les textes de Dieu, quand je regarde l'histoire de Dieu, quand je regarde ses commandements, et comment je vois comment Dieu a béni des hommes et des femmes qui ont accepté de faire ce que Dieu leur demandait. Alors je me dis que des fois, je passe à côté de grandes richesses. Je passe à côté de grandes bénédictions. Parce que finalement, je limite la parole de Dieu. Je manque de confiance. Je manque de foi. Dieu ne me demande pas de me déshabiller. Dieu ne me demande pas de m'appauvrir. Mais d'offrir selon, on l'a vu la semaine dernière, selon la bénédiction que Dieu me donne. Et de donner avec un cœur joyeux, un cœur qui ne retient pas. Retenez ce texte. L'offrande de la dîme continua à être à se pratiquer dans la famille d'Abraham, de père en fils. Son petit-fils, Jacob, le papa de Joseph, fit plus tard cette promesse à Dieu. Je te donnerai la dîme de tout. La dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai 10%. 10% de mon temps, 10% de mes dons, 10% de tout ce que j'ai, je te le donnerai. C'est intéressant de voir comment, de père à fils, les choses s'étaient enseignées. Mais vous savez que dans Deutéronome 6, Dieu a donné cet ordre au père de transmettre la parole de Dieu, de transmettre ce que Dieu demande, de ce que Dieu attend, et de transmettre tout cela à nos enfants quand je me lève, quand je me couche, quand je voyage. Et semble-t-il, monsieur Abraham, il l'a bien fait, puisque son fils, Jacob, son petit-fils, Jacob, va le faire. Et puis, on va savoir par la suite que monsieur Joseph va le faire. Et on va le voir que plus tard, monsieur Moïse, un des descendants, va aussi le faire. Voilà, c'est Genèse 28, versets 20 à 22. La chose qui est intéressante, et qu'on a noté la semaine dernière, c'est que ce que je donne, c'est une décision volontaire. C'est le Saint-Esprit qui touche mon cœur. Comment se manifeste l'Esprit dans ma vie ? Par des chants ? Par des prières ? Par des paroles ? Mais aussi par des actions. Par des actions. Quand on lit Galates chapitre 5, il y a le fruit de la chair, qui est la rébellion, les divisions, les sectes, etc., etc., les habitables. Et puis, il y a le fruit de l'esprit, la manifestation du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité. C'est le fruit. Voilà ce que Dieu fait dans ma vie. Et ça se transmet par des actions. Envers Dieu, envers les autres. Une vie qui se tourne vers les autres. Et moi, je trouve extraordinaire de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, dans vos vies, mais dans ma vie. De voir comment Dieu peut transformer quelqu'un qui et misérable. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, quelqu'un qui vit sur soi et qui dit « Oh, ça c'est à moi, c'est à moi !» Et Dieu qui dit « Donne-le aux autres. » Vous vous rappelez le jeune homme riche quand il a été voir Jésus ? Oh, il avait des richesses et il dit à Dieu « Mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Il dit « C'est difficile. C'est difficile, donne tout ce que tu as. Oh, tout ! Oui, aie confiance en moi. » Cette décision de Jacob était purement volontaire. C'était un engagement de sa part pour témoigner à Dieu sa reconnaissance et sa foi. Il ne s'agissait pas d'une loi, d'une coutume imposée, mais d'un principe estimé normal et équitable. J'aurais dû souligner. Un principe normal et équitable. Voilà ce que je devrais faire. Mais c'est Dieu qui nous le demande. C'est Dieu qui nous amène à le faire. Vous savez, quand on entend une parole, quand on entend une exhortation, quand on entend un message, celui qui parle, il peut toujours essayer de me convaincre. Il peut toujours m'obliger. Dans la Bible, celui qui amène à faire, c'est Dieu. Celui qui conduit à faire, c'est Dieu. Et quand j'entends un message, ou quand je donne un message, mes amis, rassurez-vous, il va dans le sens, s'il va vers vous, il va vers moi. Et moi, je me retrouve devant le message en disant, mais qu'est-ce que je fais avec ? Et là, vous avez vu, c'est une décision purement volontaire, qui est normale et équitable. Le montant que je donne devrait être celui que Dieu attend, en principe. Selon la loi de Moïse, parmi les différentes lois que Moïse a données au peuple de la part de Dieu lorsqu'il le conduisait à travers le désert du Sinaï, on note à propos de l'offrande. Alors, je vous rappelle juste pour que vous resituiez l'histoire. Ils ont quitté l'Égypte, où ils étaient esclaves, où ils devaient faire les travaux forcés. Ce n'était pas les 12 travaux d'Astérix, ils devaient faire les travaux forcés. Dieu les en libère, d'accord ? Et Dieu les amène dans le désert pendant 40 ans. Et là, il y a les lois qui arrivent. Donc, c'est pas le... Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Les meilleurs. La première récolte. Tu apporteras à l'Éternel, tu ne le garderas pas pour toi. Quand on a travaillé, on aime bien profiter des premiers fruits, n'est-ce pas ? On aime bien profiter de l'œuvre de son travail. Dans l'économie de Dieu, RSE. Le privilège qu'on a, c'est que le fruit, le travail, c'est Dieu qui nous le donne. Notre salaire, c'est Dieu qui nous le donne. Et la première chose que je peux faire pour exprimer ma reconnaissance, c'est de donner à Dieu ce qui lui revient. Avant de considérer le reste. Vous avez déjà pensé comme ça ? On va essayer de penser à l'envers, à se dire d'abord qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce qui reste pour que je donne à Dieu. Ainsi, Dieu était le premier servi, le mieux servi, puisqu'il recevait les premiers fruits et la plus belle part de ces fruits. Ils étaient dans le désert, mes amis. Ils n'avaient pas des beaux jardins, ils n'avaient pas un arrosage massif. Ils étaient en difficulté. Et là, Dieu dit... C'est moi qui vous donne, c'est à moi qu'il faut rendre. Un droit. Vous savez ce que c'est qu'un droit ? Dans notre pays de France, il y a un mot qui revient très très souvent. Le droit. Quelle année ? Pour ceux qui ont étudié à l'école ? Les droits de l'homme ? Quand même. 1789. Et même la date, alors là, 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, l'abolition des privilèges. Mais en 1792 est paru quoi ? Les devoirs du citoyen. les devoirs du citoyen dans sa nouvelle nation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, chrétiens, on a la prise de la Bastille le jour de la conversion. L'abolition des privilèges, hop. Mais 1792, les nouveaux droits, les nouveaux devoirs, c'est un peu plus compliqué. Et Dieu ne nous remet pas dans l'esclavage, mais nous donne des principes et des idées. À l'époque de Moïse, la dîme était considérée comme un dû à Dieu, puisque c'était de droit sa part. Avance. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Dans Lévitique 27, 30. Lévitique, c'est un livre extraordinaire que vous lisez tous les mois avec une réjouissance extraordinaire. Vous savez quel est le mot qui revient le plus fréquemment dans le Lévitique ? Célébrer, voilà, il y en a qui ont assisté à mon cours. Célébration. Célébration. Célébrer l'Éternel, honorer l'Éternel avec tous vos biens. La chose extraordinaire, frères et sœurs, sur cette terre que nous pouvons faire, nous allons le faire dans l'éternité avec lui. Mais la chose extraordinaire à laquelle Dieu nous appelle, c'est de célébrer l'Éternel. D'honorer l'Éternel avec nos revenus, avec nos biens, avec notre vie, avec notre temps, avec nos moyens. Une dîme générale au bénéfice des Lévites. Lévites, c'était les serviteurs. Vous savez que quand on a réparti Israël, quand on a donné aux 12 tribus, les Lévites, ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu d'héritage. Mais chaque nation devait leur donner une partie de leurs biens pour qu'ils soient au service de Dieu. Je te donne comme possession, fils de Lévi, toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Ceux qui sont au service du peuple doivent être salariés par le peuple. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul fera exactement la même chose dans le Nouveau Testament. Celui qui travaille mérite salaire. Et Paul, alors on réfugie toujours derrière Monsieur Paul, vous savez, ah il était faiseur de tente, il a été faiseur de tente. Lisez l'écriture mes amis, dans le livre des actes, il a été faiseur de tente très peu de temps. C'était juste pour être avec Paul et Silas. Pour leur donner du temps et pour apprendre à être avec eux. Et il est marqué que dès que le besoin s'est fait sentir, il est reparti au service de Dieu et il a à nouveau dépendu des églises. La chose extraordinaire que nous avons, c'est que Dieu donne à l'église des serviteurs pour que l'église grandisse, pour que l'église soit nourrie, pour que l'église avance, pour que le ministère, il est marqué dans Éphésiens 4:11, soit rempli comme il faut. Et la chose extraordinaire, c'est que dans ce livre des Nombres, au chapitre 18, verset 21, il est marqué, voilà, toute dîme doit être donnée aux Lévites. Toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, eurent une possession géographique qu'ils reçurent comme leur héritage. Mais les Lévites devaient accomplir une tâche particulière au sein de la nation. Ils devaient s'occuper du service de la tente d'assignation, tente où on rencontrait Dieu. Alors 10%. Le mot dîme, c'est ça. Le mot dîme, c'est 10%. Ça grince des dents là quand on dit 10%. 10%, j'ai marqué là, en compensation de leur service, ils devaient percevoir un impôt sur le revenu. C'est le mot qui nous touche toujours, impôt, collecteur d'impôts, Zachée, Matthieu. De 10% du revenu de tous les Israélites. 10% de 100 euros, par exemple. C'est 10 euros. 10% de 1000 euros, c'est 100 euros. Voilà le montant. C'est ce que Dieu prévoit. Il dit, voilà, quand vous recevez une somme, voilà le montant qui est demandé. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu a laissé tout ça? Est-ce que nous, sous la grâce, on se dit, mais tout ça, c'est plus pour nous? Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par notre consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. Toutes ces choses nous ont été données pour notre instruction. Qu'est-ce qu'on fait avec les choses sur lesquelles on est instruit? On les met en pratique? En principe. Dans Hébreux chapitre 8, il est marqué « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. » On avance. « S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. » Sur la terre, on offre des offrandes selon la loi, mais Christ, lui, a offert quelque chose qui dépassait la loi. Puisque la grâce était là. Et l'Écriture nous dit, je crois que je l'ai laissé dans le texte, on avance. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Certaines versions à vous, vous ne les avez pas ce matin parce que vous regardez mon écran, mais certaines versions à vous disent ombre des choses à venir. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-tu dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. La Bible nous invite à faire ce qui nous est écrit, ce qui nous est enseigné, ce pourquoi nous avons été instruits. Ça nous choque un peu, hein, de se dire, mais Dieu finalement, dans son économie, dans sa direction parfaite, dans son amour parfait, a déjà prévu comment je peux gérer ma vie. Parce qu'il me dit que je peux lui faire confiance. Que s'il lui fixe des choses, alors il peut les remplir. Vous vous rappelez les disciples qui marchaient, qu'il avait dit, qu'il avait envoyé et qui commençaient à s'inquiéter de quoi ils mangeraient, de quoi ils seraient vêtus. Et il leur dit, de quoi vous inquiétez-vous, gens de peu de foi. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Doit-on donner 10%, et j'ai marqué, ou plus ou moins? Ce n'est pas un plafond. Ce n'est pas un maximum, mais un point de départ de la première cible du chrétien, soucieux de tenir compte des enseignements de la Bible. Ce n'est pas un plafond, ce n'est pas un maximum. J'ai donné 10%, maintenant c'est bon. 10%, c'est la première cible. C'est la première vision de ce que Dieu me demande. Pas ce que le pasteur demande, pas ce que l'Église demande, pas ce que la loi demande, pas ce que la Bible demande. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. Alors on dit, oui, mais hé, pasteur, t'as vu, c'est dans le ciel. Il ne nous a pas bénis sur la terre. Il ne nous bénit pas dans chacune de nos vies. Il ne nous donne pas tout ce que nous avons besoin. J'espère que oui. Je crois que oui. Et je peux dire oui, n'est-ce pas? En votre nom. Dieu nous bénit de toute bénédiction. Il nous permet, pour ceux qui sont dans la difficulté, d'aider aussi. Et nous l'avons fait tout récemment. Dieu est un Dieu tellement riche. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Vous savez, la banque européenne, elle peut décider, la banque mondiale peut décider. Le banquier mondial, celui qui a la main sur toutes les richesses, c'est Dieu. Et vous savez que le riche, le jour où il part, il ne peut rien emporter. Vous vous rappelez cette petite histoire? J'espère que vous allez là. Ça ne va pas vous choquer. Il y avait une dame qui avait épousé un monsieur très très riche. Et ses enfants disaient, oui, mais elle est là, c'est pour récupérer ses richesses. Et donc il vit à chaque fois que la dame ne profite pas de ce que le monsieur avait en richesse. Et le monsieur il meurt. Mais avant de mourir, il avait dit à sa femme, je veux partir avec toutes mes richesses. Alors Il a pris la main de sa femme comme ça. Et puis vous savez, quand un homme est en train de mourir ou quelqu'un est en train de mourir, c'est voilà, on prend un engagement. Hein. Il fait promets-moi, tu mettras dans mon caveau là, dans mon cercueil, toutes mes richesses. Elle a dit, je te le promets. Alors c'est venu aux oreilles des enfants. Ils ont dit, oh, t'as promis. Et la femme a continué à vivre et à bien vivre. Alors un jour, les enfants viennent la voir et disent, hey, tu n'as pas respecté l'engagement que tu as donné à mon père. Tu ne lui as pas donné toutes ses richesses. Elle dit, si. Comment ça? Mais regarde tout ce qui te reste. Je lui ai fait un chèque. Il est parti avec le chèque. Apparemment, la Banque du Ciel devait être en grève. Mes amis, c'est pas une vraie histoire, hein, je vous rassure. Mais nous amassons des choses sur notre terre qu'il serait tellement bien de confier à Dieu, qu'il serait bien de pouvoir partager avec les frères et sœurs. Et nous sommes une église généreuse. Et nous le prouvons. L'enseignement que je fais, simplement, c'est pour nous rappeler ce que Dieu veut. Pour que vous soyez en capacité de faire ce que Dieu attend de chacun d'entre vous. Pas de ce que j'attends d'entre vous, mais de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je ne veux pas vous choquer, vous offenser, mais vous dire voilà ce que la Bible dit. Et après, c'est à chacun volontairement de décider. Vous vous rappelez le petit texte sur Melchisédek, à qui Abraham avait donné la dîme de tout au début ? En effet, il est notoire que notre Seigneur est issu de Juda, de la tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les prêtres, avance. Cela devient plus évident encore quand se lève à la ressemblance de Melchisédek, un autre prêtre. Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'est intéressant ça. Vous n'avez jamais fait le rapprochement entre le livre de l'Exode et ce texte d'Hébreu ? Melchisédek, c'était ce roi à qui Abraham a donné la dîme de tout. Nous sommes le peuple de Jésus-Christ. Nous sommes héritiers du grand roi. Est-ce que Dieu met sur nos cœurs de donner à notre Melchisédek, nous, notre Seigneur Jésus-Christ, la priorité de ce que nous devons lui donner, le montant que nous devons lui donner, afin qu'il puisse faire avec nous des hommes et des gens généreux, des hommes et des gens qui seront bénis. Parce que c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Il est devenu non par la loi d'un commandement relatif à la chair, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car ce témoignage lui est rendu, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ah, c'est intéressant, non ? De voir Jésus, tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'est pas Melchisédek qui l'a décidé, mais Melchisédek était cette représentation de Dieu à qui Abraham a pu donner ce qu'il attendait. Le croyant se trouve par Jésus-Christ au bénéfice du sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire ministère éternel de Melchisédek à qui Abraham a donné la dîme de tout. Alors, question. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi ne pas se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans mon économie que tu aurais besoin de changer ? Est-ce que dans ma manière de gérer mon argent, parce que là on peut toucher la gestion de notre argent, tu aurais quelque chose à m'apprendre ? » Vous savez ce qui est extraordinaire quand on vient à Jésus-Christ ? C'est qu'il veut notre cœur, il veut notre corps, mais il veut tout ce qui nous appartient, parce qu'il veut que ça soit mieux. C'était peut-être bien avant, mais c'était sans Christ et c'était sans issue. En Christ, Dieu veut changer et il touche à notre économie, il touche à nos relations hommes-femmes, il touche à nos relations parents-enfants, il touche à nos relations employés-employeurs, il touche à nos relations employeurs-employés. Il touche à notre domaine de l'équitabilité, de payer nos impôts. Tous ces domaines-là, Dieu les touche. Et j'ai voulu juste en deux dimanches essayer de nous rappeler ce que Dieu attendait de nous. de chacun d'entre nous, pour que nous ne soyons pas une église différente, mais l'église selon ce que Dieu attend. Parce que Dieu veut pour chacun de nous le meilleur. Et c'est ce qu'il attend. Amen.